Vous écoutez À Propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, c'est l'expertise de notre rédaction dans vos oreilles. Nous avons suivi un contrôle de l'AFSCA chez un agriculteur, on vous raconte dans un instant. Mais d'abord, la guerre fait rage dans l'est du Congo, on en parle avec Colette Brackmann. Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité comme vous l'entendez.
Grand angle.
Goma, la capitale du Nord Kivu, est encerclée. La guerre fait rage dans l'est de la République démocratique du Congo depuis plusieurs mois, mais la situation devient de plus en plus critique. Goma pourrait tomber aux mains des rebelles du mouvement M23. Le conflit prend une tournure internationale avec l'implication des armées de plusieurs pays. Colette Brackmann, journaliste au pôle international, était à Goma. On l'a appelée alors qu'elle se trouve maintenant à Kigali, au Rwanda.
Bonjour Colette.
Bonjour.
Vous êtes donc en reportage, vous étiez il y a quelques jours encore à l'est de la République démocratique du Congo, autour de la ville de Goma. D'abord, à l'heure où on enregistre ce lundi en fin de matinée, on en est où? C'est quoi la situation autour de Goma et c'est quoi la situation à l'est de la République du Congo?
Mais autour de Goma, la situation est un peu en statu quo, c'est que la ville est coupée de l'accès à l'Interland, soit vers le nord, vers l'ouest, donc il y a des problèmes d'approvisionnement, mais il y a encore de l'approvisionnement qui arrive via la frontière du Rwanda, qui est ouverte, où il y a encore des camions qui passent. Mais évidemment, comme les zones productrices agricoles et tout ça, l'accès est coupé vers le nord et vers l'ouest, les prix des produits alimentaires de base ont fort augmenté. Ça, c'est une chose. Et puis aussi, il y a quand même une crainte de la population depuis que des bombes sont tombées sur l'aéroport de Goma, qui n'est vraiment pas loin du centre-ville. Donc, il y a un certain sentiment de précarité où les gens se demandent ce qui va leur arriver.
Pour essayer d'un peu comprendre, les forces en présence aujourd'hui, ce sont les rebelles du mouvement du M23, qui est donc soutenu par le Rwanda d'un côté, et puis les forces officielles congolaises du président Tshisekedi qui s'affrontent.
Oui, c'est-à-dire que ce mouvement rebelle qui est composé de Tutsis originaires du Congo, d'une région du Massissi, depuis la colonisation belge, il y a des Tutsis dans cette région et au fil des guerres, ces gens ont été persécutés, ont pris part au conflit, à différentes rébellions et puis les éléments militaires sont partis, ils se sont réfugiés en Ouganda et au Rwanda. Il n'y a pas eu d'accord politique ou les accords n'ont pas été respectés et voici 2 ans, ils ont décidé de revenir d'une façon offensive au Congo. Ils sont revenus avec leur équipement militaire, avec probablement le soutien logistique des pays dont ils venaient et ils ont gagné du terrain contre l'armée congolaise qui est une armée malheureusement assez corrompue, qui a été soumise à des remaniements divers, elle a dû intégrer des groupes rebelles, donc elle est en réorganisation. Le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle n'est pas suffisamment performante, ça c'est le défi du président Tshisekedi. Alors Kinshasa, vu la faiblesse de son armée, a dénoncer le Rwanda qui soutiendrait, dit-il, ces rebelles Tutsis, mais l'ONU le dit aussi, mais enfin c'est difficile d'en avoir énormément de preuves. Et alors Kinshasa a fait appel à des aides étrangères, d'abord les pays voisins, le Kenya, mais les forces kenyanes sont venues et n'avaient aucune envie d'entrer en guerre contre les 10 rebelles en se disant que d'abord ils étaient bien armés, bien équipés, que c'était dangereux, donc elles n'avaient aucune envie de se mouiller. Bon, elles ont fini par partir. La force de la MONUSCO, les Nations Unies, les casques bleus des Nations Unies sont dans la région depuis 22 ans et maintenant Kigali a demandé leur rappel. Et donc on voit bien que la MONUSCO aujourd'hui à Goma est tellement impopulaire qu'elle n'ose même plus circuler en ville dans les camions blancs et bleus de l'ONU. Ils circulent dans des voitures banalisées, dans des jeeps anonymes parce qu'ils ont peur d'être caillassés par la population qui dit puisqu'ils ne servent à rien autant qu'ils partent le plus vite possible. Et donc, d'ici la fin de l'année, cette force de l'ONU sera partie. Tout le monde dit que, en fait, ça les a pas beaucoup aidés. Alors, vu ces carences diverses, finalement, le gouvernement de Kinshasa a fait appel à d'autres alliés qui sont déjà arrivés sur le terrain, des alliés qui sont ceux de la SADC, la Conférence économique pour l'Afrique australe, South African Economic Conference, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, la Tanzanie, le Malawi, qui ont envoyé des troupes à Goma, et aussi le voisin Burundi. Le Burundi a envoyé des troupes en RDC et les frais de toutes ces interventions sont supportés par le budget de Kinshasa.
Vous vous êtes rendu à Goma. Aujourd'hui, la population, elle vit comment ? La ville est encerclée, vous l'avez dit, il y a les craintes de pénurie, il y a des craintes parce qu'il y a des bombes qui tombent. On est vraiment dans une situation extrêmement difficile, extrêmement problématique.
Mais au centre-ville, c'est extrêmement calme, donc ça va encore parce que les gens restent chez eux, ils essayent de trouver des produits de première nécessité, ça, et pour l'instant, il y en a encore eu. Bon, ce sont les Congolais, ils essayent de se débrouiller. En ville, ça va, mais à partir de 16 heures, la ville est vide. Les gens partent et rentrent chez eux, ils disent non, c'est beaucoup plus prudent d'être chez soi, calfeutré. On ne sait pas ce qui peut arriver. Donc les gens vivent quand même dans une grande incertitude parce que ce qu'on appelle la ville de Sake, qui est à 24 km de Goma, je suis allée tout près, on appelle ça dans la région le verrou de Sake. Et ça, c'est vraiment, ça commande l'accès à Goma. Donc si Sake est prise par les rebelles, ben, c'est une autoroute ou presque pour arriver dans la capitale du Nord Kivu. Mais pour le moment, la ville de Sake n'est pas prise. L'armée congolaise résiste. J'ai vu des jeeps sud-africaines qui prenaient position dans la région. Alors la question c'est, est-ce que les alliés de Kinshasa vont se montrer efficaces ? Est-ce qu'ils vont se battre ? Là, on est dans la question. Et alors l'inquiétude des gens de Goma a été avivée aussi par le fait que des projectiles ont été tirés sur l'aéroport de Goma. Or l'aéroport, ça c'est vraiment tout près. Et c'est tout près de la ville. C'est la connexion de Goma avec le monde extérieur. Si l'aéroport de Goma est hors d'usage ou que les avions ne viennent plus. Alors là, si vous regardez la carte, la ville est totalement isolée. La seule issue, c'est le Rwanda, que, aux yeux des Congolais, le Rwanda est une partie belligérante.
Ça fait plusieurs semaines, ça fait plusieurs mois qu'il y a des combats autour de Goma. Là, il y a une petite prise de conscience de la population mondiale de ce qui est en train de se passer à l'est du Congo, où ça reste un drame dont on parle très peu ou trop peu.
Mais je crois qu'on en parle trop peu, que pendant des mois, certainement 2 ans, le Congo est passé au bleu, si vous voulez, il a été éclipsé par la guerre en Ukraine. Et puis maintenant, évidemment, avec la tragédie qui se déroule à Goma, toutes les émotions et tous les efforts diplomatiques se tournent vers le Proche-Orient. Cela dit, le secrétaire d'État américain Blinken a fait plusieurs voyage dans la région et on relève quand même que les États-Unis commencent maintenant à s'inquiéter de l'internationalisation du conflit. Jusqu'à présent, on pouvait dire, bon, ce sont des rebelles qui sont en dispute avec le gouvernement central, ils vont finir par négocier, etc. Kinshasa disait, mais non, c'est le Rwanda. Donc on dit, bon, c'est une guerre entre voisins, entre Kinshasa et Kigali. Les présidents Kagame et Tshisekedi vont finir par se rencontrer et s'entendent. Maintenant, ça prend une autre tournure. Vous avez l'armée burundaise est présente, l'armée sud-africaine est présente, les Tanzaniens, le Malawi, l'Ouganda est présent aussi dans ce qu'on appelle le Grand Nord du Kivu. Ça devient une guerre internationale africaine. Et là, ça devient un danger aussi. Et ce qui, pour moi, est très frappant, c'est qu'il y a une radicalisation de l'opinion publique congolaise qui est influencée par les réseaux sociaux, par les fameux influenceurs, avec une hostilité croissante à l'égard de l'Occident. Et donc, si le Congo se tourne vers la Chine pour ses échanges économiques, demande à la Russie d'envoyer des mercenaires, on n'en est pas encore là, mais dans le monde comme il va, ça pourrait arriver. Alors là, c'est une crise majeure parce que le Congo est tout de même détenteur de matières premières essentielles, que je ne vais pas énumérer, vous les connaissez, mais qui sont essentielles pour l'Occident. Alors là, l'indifférence, on ne peut plus se la permettre.
Merci beaucoup, Colette. Prenez bien soin de vous. Faites attention, évidemment, on continuera à suivre avec attention vos reportages depuis l'Est du Congo et depuis le Rwanda. Merci beaucoup.
Merci, à bientôt.
On l'a vu ces dernières semaines, les agriculteurs sont en colère, leurs revendications sont nombreuses, un revenu digne, une réforme de la PAC ou encore l'arrêt des traités de libre-échange. Mais une des choses qui prend le plus de temps aux agriculteurs, c'est la surcharge administrative. Ils croulent sous la paperasse et craignent les contrôles inopinés. Pour comprendre ce qu'ils vivent, Frédéric Delepierre du Pôle Planète a vécu un contrôle de l'AFSCA de l'intérieur. Il raconte à Arthur Boulanger.
Bonjour Frédéric.
Bonjour Arthur.
Donc vous avez décidé de suivre un inspecteur de l'AFSCA pendant une journée, pourquoi y avoir été ?
Les agriculteurs
se plaignent depuis le début de la crise, depuis le début de la crise agricole, d'un surplus de lourdeur administrative et de contrôle qu'ils subissent de la part de différentes instances, que ce soit fédérales, régionales, européennes, voire privées. Donc j'ai eu envie d'assister à un de ces contrôles pour voir comment ça se passait entre l'AFSCA et un agriculteur chez qui des inspecteurs allaient se rendre. Et on m'a prévenu tout de suite, on m'a dit voilà, ce sont des contrôles qui se font de manière inopinée, donc peut-être que la presse ne sera pas acceptée. Donc ma mission à moi, ça a été de me faire accepter par l'agriculteur dans un premier temps, de lui expliquer pourquoi je venais le voir, et ce pourquoi c'était simplement qu'il puisse exprimer un peu son désarroi face à toutes ces charges qui viennent s'ajouter à son travail de tous les jours. Ensuite, dès que nous sommes arrivés, l'inspecteur s'est présenté, l'agriculteur était occupé à la traite de ses vaches, donc il n'était pas spécialement disposé à ouvrir tout son administratif, à aller guider l'inspecteur un peu partout dans sa ferme.
Il n'est pas du tout au courant de
Ah non, l'inspecteur arrive, il ne s'est pas signalé, donc afin que justement tout ça soit naturel et qu'il n'y ait pas des préparations, que tous les documents soient remplis à la va-vite pour justifier l'injection de telle ou telle chose ou l'épandage de telle ou telle chose. Donc tout ça se fait vraiment de manière impromptue. Mais donc l'agriculteur dans un premier temps n'était pas ravi, mais il n'a pas le choix, il doit se plier au contrôle. Et accueillir la presse là, il n'était pas du tout d'accord, dans le sens où, pas qu'il ait quelque chose à cacher, simplement dit moi j'ai pas le temps de commencer à parler, à expliquer, à me justifier à un journaliste. Mais il se fait que le fils de ce monsieur était présent, qui travaille avec lui dans l'exploitation, il a 28 ans et il avait lui un peu plus de temps à me consacrer, ce qui fait que j'ai pu assister à ce contrôle dans toutes les étapes. Donc tout ça s'est passé dans une très bonne ambiance, ils se sont très bien compris, inspecteur et agriculteur, et le contrôle s'est passé comme il devait se passer. Et il faut savoir que c'est vrai que ça prend du temps, ça a pris au total 3 heures.
Sur une majorité d'investissements, de charges de plus en plus lourdes et de charges aussi administratives.
Ce 29 janvier dernier, certains agriculteurs parlent au micro de nos confrères de la RTBF.
Une simplification des règles, ça c'est ce qu'on aimerait avoir. Donc des contraintes, tout ça, des revenus plus justes aussi. Parce qu'on a tendance à nous donner des primes pour nous contenter. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pas des primes, on veut des prix. Et il y a une grosse différence là-dessus, quoi.
Alors, on l'a vu ces dernières semaines, il y a une grosse colère des agriculteurs. Est-ce que dans ces revendications, la surcharge administrative revient beaucoup ?
Oui, tout à fait. Ils se plaignent de plusieurs choses. Hein. Il y a notamment les prix. On en a beaucoup parlé la semaine dernière. Il y a eu une réunion entre les ministres, les syndicats d'agriculteurs. Ils aimeraient évidemment gagner un peu mieux leur vie. Ça, c'est un volet. Mais à ce volet administratif, ici, il les pèse énormément. Bon, certains disent que ça leur prend 2 heures par semaine. D'autres disent que c'est 4 heures par semaine. Tout ça dépend de la taille de l'exploitation, évidemment. Évidemment, il y a ce travail administratif et ces contrôles qui sont, je dirais, légaux. Donc ici, par exemple, l'AFSCA procède à ces contrôles pour s'assurer de la traçabilité des bovins, des fruits, des légumes. Il y a aussi la région wallonne qui procède à des contrôles pour le bien-être animal. L'Europe procède à des contrôles afin de décerner les primes dues à la politique agricole commune. Mais à côté de ça, il y a toute une série de contrôles qui ne sont pas imposés par la loi, qui sont des contrôles liés aux certifications que les agriculteurs doivent remplir afin que leur production soit vendue dans les magasins. Donc la filière laitière impose des contrôles, la filière des pommes de terre impose des contrôles, les sucreries imposent des contrôles pour les betteraves, et tout ça, ça prend du temps, ça prend du temps à ces gens qui effectivement s'en plaignent.
Et donc, est-ce que le but de ce reportage, c'était peut-être de montrer au plus grand nombre cette détresse de l'intérieur ?
Oui, voilà, j'ai expliqué pourquoi on était là, et que le but est justement de leur permettre de faire connaître au plus grand nombre les contraintes qui sont imposées par toute cette charge administrative, la lourdeur que ça peut représenter. Je crois que c'est pour ça qu'ils nous ont accepté, c'est de pouvoir nous montrer qu'ils ne se plaignent pas gratuitement, et que là derrière, il y a effectivement quelque chose de concret, qui prend du temps, qui est énergivore, et qu'ils aimeraient pouvoir réduire, tout simplement pour qu'on consacrer plus de temps à leur travail qui est d'élever des bovins, de travailler dans les champs pour simplement nourrir la population, parce qu'ils le disent depuis le début, on vous nourrit mais on a du mal à se nourrir nous-mêmes, quoi.
Merci Frédéric.
Merci Arthur.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain matin. Merci de votre écoute. Si vous en voulez encore, tous nos podcasts sont disponibles dans l'application du soir. Rendez-vous dans le store de votre smartphone ou de votre tablette pour la télécharger. À demain.